cours de philosophie de la nature par le père Marie-Dominique Philippe à Saint-Jaudard, le 22 octobre 1992.
Je vous disais la dernière fois la difficulté pour nous de la philosophie de la nature à cause de la naissance de la physique moderne. Alors, si je commence par vouloir critiquer ou comparer physique scientifique, science moderne et philosophie de la nature d'Aristote, je n'arrive pas. Je crois que la première chose qui est à faire, c'est ce que nous allons essayer de faire ensemble. Quitte sur certains points de revenir ensuite pour comparer. Alors ceux qui ont vu beaucoup de physique moderne, que sur certains points, ils n'hésitent pas de poser leurs questions. Parce que c'est important et intéressant. Il y a un dialogue qu'on doit avoir avec les scientifiques, les mathématiciens avant tout. Puisque le matheux est à la science moderne ce que la métaphysique est aux diverses parties de la philosophie. Alors, tant qu'on n'a pas atteint la métaphysique, la philosophie première, on ne connaît pas vraiment la philosophie. C'est au niveau de la philosophie première que la philosophie prend toute sa signification. Alors, comment se pose le problème, non pas chez Aristote, pour nous? Aristote est le premier qui a fait une philosophie de la nature. Il a fait une philosophie de la nature face à des philosophes qui refusaient la philosophie de la nature. Parménide. Pour Parménide, le monde physique est un monde d'opinion. Et puis c'est tout. Il le livre au diable. Tandis qu'Héraclite, ah pas du tout. Héraclite, c'est le grand-père d'Aristote. Empédocle également. Ce sont des gens qui sont partis de la nature. Les sophistes rejettent tout ça. Socrate a répondu aux sophistes à sa manière, mais qui pour Aristote n'est pas suffisante, comme Platon. Platon n'accepte pas de philosophie de la nature. C'est une opinion. Donc, face à Platon, face à Parménide, et Aristote va établir une philosophie de la nature. Notre problème est très différent, mais il y a quelque chose de semblable. Nous, c'est face à la philosophie hégélienne, face à Descartes, face à Kant, face à la science moderne, que nous devons essayer de découvrir le statut propre d'une philosophie de la nature. Vous voyez, c'est pas commode, hein. Il faut bien dire ça. Il y a le livre du père Aubert, je crois que c'est Aubert, qui était professeur à l'Institut catholique de Paris, qui est paru à Beauchesne, l'édition Beauchesne sur la philosophie de la nature. C'est, je crois, le plus intéressant. Mais vous verrez, au fond, ça reste une topique intéressante pour montrer que le problème de la philosophie de la nature s'est toujours posé et qu'il continue de se poser. Mais qu'il ne donne pas de solution. Alors, ce qui est très curieux et ce qui est intéressant quand même, c'est que si je regarde les écrits d'Aristote, hein, la physique d'Aristote, puisque ça s'appelle la physique, si je regarde d'Aristote. Je vois que le premier livre est un livre de critique. Aristote commence par la critique. C'est pas étonnant, puisque face à Platon, face au Parménide, il faut montrer que la réalité physique a une intelligibilité. Alors, quelle intelligibilité pour nous? Est-ce que c'est une intelligibilité qui vient des mathématiques, par le domaine de la quantité, par le domaine de la relation? Ou est-ce que c'est une intelligibilité propre? Oui, le problème critique consiste à essayer de voir s'il y a une intelligibilité propre à ce qui est mu au monde physique. Qu'il y a là un problème intéressant sur lequel on reviendra constamment, parce que je crois que la critique va être constante en philosophie de la nature. Je voudrais, avant de voir ça, montrer que pour nous, le problème de la philosophie de la nature se pose toujours en parallèle avec la philosophie de l'art. Et je crois que c'est cela qui va nous faire comprendre la véritable intelligibilité de la philosophie de la nature en philosophie.
C'est très curieux, mais c'est très intéressant de voir tout ça.
ces problèmes un peu en parallèle, parce qu'il y a quelque chose d'analogue. Et ça, c'est l'outil, c'est autre chose. On y reviendra, c'est la philosophie de l'art. C'est pas la philosophie de la nature. Mais ce qui est sûr, c'est que l'artiste a l'expérience de la matière. Et ce qui est très intéressant à noter, c'est que la praxis de l'idéologie marxiste n'étudie la matière qu'en fonction de la transformation. C'est là où on voit que l'idéologie marxiste n'étudie pas vraiment la matière. Elle étudie le travail. Et c'est en fonction du travail qu'on regarde la matière. La dialectique marxiste implique ce point de vue-là. Le travail, c'est la transformation de la matière. Et la matière n'est intelligible qu'en fonction du travail. Tandis que dans une philosophie réaliste, face à la praxis, on va essayer de comprendre que la matière, avant le travail, possède une certaine intelligibilité. Et que l'intelligibilité de la matière ne vient pas uniquement de l'idée de l'artiste. C'est toute la différence de la conception idéologique de la matière et du monde et la conception réaliste de la matière. Vous voyez que la conception idéaliste de la matière, du monde physique, c'est un monde matériel, le monde physique, c'est un monde sensible, c'est le monde que je vois. C'est de la pierre, c'est de l'argile, c'est tout ce que vous voulez, c'est même de l'eau, tout ça c'est la matière. Dans le point de vue dialectique, on comprend la matière relative au travail, et le travail est relatif à la matière. La praxis, le travail, implique l'union des deux. C'est une vision dialectique de la matière. Il faut bien comprendre la vision dialectique de notre monde physique. Comment notre monde physique est transformable. Vous voyez qu'il y a une certaine analogie avec la physique scientifique qu'on regarde à travers le point de vue mathématique. Dans la mesure où c'est mesurable, et dans la mesure où les mathématiques peuvent formaliser la matière, l'idéologie marxiste formalise la matière par le travail. La physique moderne, scientifique, formalise la matière par les mathématiques. C'est très curieux à mettre en parallèle. Ça fait comprendre peut-être un certain lien entre la dialectique et les mathématiques. Un lien souterrain, très profond. Pas toujours avoué. Avoué chez Descartes. Je ne sais pas si chez Hegel, c'est avoué de la même façon. Ce serait intéressant à voir dans quelle mesure. Mais c'est sûr que les idéologies qui naissent à partir de Hegel sont toujours plus ou moins liées aux mathématiques dans leur application. Et quand Lénine dit, c'est Lénine qui dit ça, quand Lénine dit que le marxisme doit évoluer en fonction des progrès de la science, vous voyez que l'idéologie marxiste montre son lien avec l'idéologie scientifique, donc le positivisme. Dit que l'éthique doit varier en fonction du progrès de la science. En dernier lieu, c'est le progrès mathématique. Vous retrouvez toujours le même positivisme. ça qu'il y a un lien très secret entre le marxisme et le positivisme. Et un positiviste ne peut pas vraiment lutter contre le marxisme. Ils peuvent être contraires, mais ils ne peuvent pas. Le positivisme ne peut pas philosophiquement répondre au marxisme. Donc, pour nous, le problème de la philosophie, de la nature, se pose à partir de l'art et non pas à partir de la science. Et non pas à partir des mathématiques. À partir de l'art comme ce qui est donné en premier lieu. Donnée initiale à la transformation que l'homme peut faire subir à ce donné initial. Et plus la puissance de l'homme est forte, plus la matière se résorbe à quelque chose de commun. Parce que plus la matière est résorbée par l'activité artistique, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est très difficile de bien poser le problème de la philosophie de la nature. Parce que le progrès de la science et le progrès de la technique est tel que je ne peux pas dire que la matière, c'est ce qui est antérieur à la réalité. À la réalité de l'activité artistique de l'homme. Je peux plus le dire. La désagrégation de l'atome provient d'une science et d'une technique qui est de plus en plus puissante pour arriver jusque-là. Et alors on dira, on l'a dit à ce moment-là, que la matière est résorbée, ce qui n'est pas vrai. Ça, on verra ça, un problème de limite, mais très intéressant. C'est très intéressant parce qu'il y a un affrontement là. C'est vrai que la désagrégation de l'atome fait qu'il n'y a plus, au sens, tout simplement, humain. Il n'y a plus de matière préalable. C'est anéanti, résorbé. Par la science et la technique. Donc, d'une certaine manière, l'activité de l'homme a résorbé la matière. Et donc, si je poussais jusqu'au bout, je dirais, il n'y a plus de philosophie de la nature. Il n'y a plus qu'une science et une technique. Le problème de la philosophie de la nature n'existe plus. C'est pour ça qu'il faut être attentif à ça. C'est le problème de la situation limite de la matière par rapport au progrès de la science et au progrès de la technique. Cependant, il reste vrai au plan du philosophique que je peux dire que l'artisan me fait poser un problème qui m'intéresse. Au plan philosophique, la matière, ce qui est capable de transformer pour l'artisan. Je ne dirais pas pour le savant, pour l'artisan. Il faut comprendre que je suis donc en présence d'une nouvelle expérience. L'expérience de la matière qui n'a pas été transformée par l'art. D'une matière qui reste intacte. de cette matière qui reste intacte et qui n'est pas transformée par la physique, par la science et la technique. Je peux l'expérimenter. C'est ce qui est mu, c'est ce qui est corruptible. Donc, ce qui possède en soi une potentialité radicale. Et il y a une véritable expérience humaine là. Prenez de Valérie, monsieur Test, parce que c'est intéressant au point de vue littéraire de voir ça. Et c'est pas bête, comme Valérie n'est jamais bête, est intelligent. Mais il est dans le milieu poétique, le milieu critique, le milieu mathématique. Il y a tout dedans. Une soupe du samedi. Mais intelligente, hein, une soupe très très bien faite. Qui a très bon. Très raffiné. Monsieur Test, voyez ce que c'est. Celui qui se trouve au bord de la mer, devant un caillou extraordinaire, un coquillage, une petite pierre, il se demande, est-ce que c'est un objet d'art ou un objet naturel? J'ai déjà dit à certains, au désert de Juda, j'avais ramassé un très beau, une très belle pierre, taillée à la manière d'une hache. Je rapportais ça à un père dominicain, archéologue, que je connaissais bien, le père Devaux. Et j'ai dit, est-ce que c'est une pierre brute qui a cette forme-là? Ou est-ce que c'est taillé par l'homme? Alors il l'a regardé. Il n'a pas pu me répondre. Il m'a dit, c'est intéressant. Parce que si c'est vraiment une terre taillée par l'homme, c'est très très primitif. Dans le désert, on trouve tout. Le désert, c'est ce qui garde le mieux les objets de nature. Puis on est libre dans le désert, on médite, donc on est très attentif à tout. On médite sur le Créateur, vous comprenez, qui a créé le désert pour l'homme. Pour que l'homme ait enfin quelque chose de pur à regarder. Qu'il ne soit pas pollué, qu'il ne soit pas abîmé. C'est ça le désert. On a là tous la nostalgie du désert. S'il y avait un désert plus proche d'ici, il faudrait que tous les mois, un jour de désert. Ce serait merveilleux. Ça vous donnerait une taille. Alors on met Montmorin. Oui. Un désert habité. Mais passer uniquement une journée au désert. Mais seul au désert. Pas en groupe. Ça va pas. Mais seul au désert. Désert de Sahara. En faisant attention de ne pas se perdre. Parce que... Alors, la question se pose, est-ce que c'est un objet naturel? Est-ce que c'est un objet artistique? Et comment peut-on distinguer? Parce que c'est ce problème-là que je crois qu'on doit poser aujourd'hui et qui nous oblige de voir qu'il y a une connaissance distincte d'un objet d'art, d'un objet naturel. Il y a une connaissance distincte. L'étude d'un objet artistique nous permet de distinguer tout de suite matière et forme. C'est le propre de l'objet d'art. Parce que la forme d'autre. Mais des gouées d'arbres à travers une œuvre artistique, vous voyez bien, c'est plus un arbre. Il est complètement détruit. Alors il était si beau cet arbre. Il est réduit à la dimension de l'homme. L'ennoblissement que la matière subit par l'art est quelquefois un asservissement, un esclavage. Quand l'arbre se ramène à une chaise, vous asseyez dessus, c'est un esclavage pour l'arbre. Servir de siège à des petits bambins. La noblesse de la noblesse de l'arbre disparaît. Voyez, cette connaissance différente qu'on a d'un objet d'art utilitaire et de la nature. L'objet d'art me permet tout de suite de distinguer matière et forme. Ce petit raisonnement que prend Aristote, qui est très simple, il y a un cercle de bois, il y a un cercle de bronze, il y a un cercle de pierre, il y a un cercle qui se ramène à une ligne sur du sable, sur un tableau noir. C'est toujours le cercle. La forme reste la même. Et ça se transforme complètement avec une matière différente. On distingue donc forme et matière. C'est la première distinction que fait la connaissance humaine. Matière et forme. Et dans saint Thomas, ça se retrouve tout le temps, jusque dans les sacrements, qui est une œuvre artistique faite par l'Esprit Saint. Et vous retrouvez matière et forme. C'est extraordinaire. C'est une distinction fondamentale. Alors, il faut la découvrir à l'origine. Il faut la découvrir au terme. Matière et forme. Cette distinction, je la retrouve dans la réalité physique. Mais elle est beaucoup plus ténue et beaucoup plus difficile à voir. Parce que ce n'est plus seulement la figura. Au point de vue artistique, c'est la figure. Le cercle, c'est la figure. Et la forme se ramène à la figure. Dans la réalité physique, qui n'est pas œuvre d'art, la forme sera la détermination de telle réalité que j'expérimente, qui est vue, qui est corruptible. Et la matière sera l'indétermination de cette détermination. Puisque dans l'objet de la nature, matière et forme constituent la réalité physique corruptible. La forme est corruptible. Dans un objet naturel, elle est corruptible par la matière, comme du reste dans l'objet d'art. La forme de l'objet d'art est incorruptible, dans la mesure où elle est pensée par l'artiste. Mais par la matière, elle est corruptible. Vous voyez, quand vous voyez une statue de bois merveilleuse, qui est mangée par les vers, parce que les vers ne respectent pas la statue de bois. Et pour les vers qui s'installent dans une statue de bois, ça leur est bien égal que ce soit une statue vénérable et vénérée. Ça leur est bien égal. C'est le bois qui l'intéresse. Alors n'oubliez pas que bois, en grec, c'est houlé, c'est matière. C'est très significatif. Vous voyez, il y a une étymologie première. Donc, je ne dis pas que la matière, c'est ce que les vers qui sont dans le bois avalent. Mais la matière, c'est ce qui est indéterminé. La forme, c'est la détermination. Toute figure implique une détermination. Toute figura implique une détermination. Donc, vous retrouvez une distinction analogue entre l'objet artistique et l'objet naturel. C'est cela qui a permis à Aristote de découvrir qu'il existe une philosophie de la nature. Et cela reste vrai pour nous. Et donc, la philosophie de la nature d'Aristote, dans son fondement, demeure. Première affirmation, qui n'est pas reçue par tout le monde, parce que on ne voit pas d'où vient et comment se forme la philosophie de la nature. On regarde les conclusions et on les oppose à la science. Alors ça ne va plus du tout. Toute la philosophie de la nature repose sur la distinction de matière et forme. Or, cette distinction vient de l'art, de l'objet artistique. Et elle est transposée analogiquement à la nature, à la matière. Oui, ça qui est très curieux. On transpose une distinction de l'œuvre artistique à la matière de l'œuvre artistique. Quand vous prenez une statue de bois, puisque nous en avons une, donc on la vénère parce qu'elle représente la Vierge Marie. Mais si le philosophe regarde ça, il dit, bon, il y a une figure, il y a une détermination. Cette statue aurait pu très bien être faite en marbre, en pierre, ou en un autre bois. La distinction au point de vue philosophie de l'art, c'est matière et forme, figura, la figure et la matière. Je me suis servi. Le philosophe ne regarde pas la figura artistique. Il regarde en quoi cette figura s'est précisée, s'est déterminée et distingue dans la matière de l'artiste la matière et la forme. Voyez bien les deux niveaux d'intelligibilité. Tout simplement réfléchissant là-dessus. La transposition que fait le philosophe de la distinction matière et forme de l'artiste au sujet, à la matière sur laquelle l'artiste travaille. Pour le philosophe, cette matière est du bois. Et le bois implique une détermination. Et cette détermination bois implique une matière commune à des quantités d'autres choses. si j'analyse ce que c'est que le bois, je vois qu'il y a des éléments communs avec des tas d'autres choses. Cependant, l'ensemble de ces qualités forme le bois. Et du bois, je vais faire une feuille de papier. C'est extraordinaire, les transformations. Et dans la feuille de papier, je dirais, c'est une œuvre artistique, la feuille de papier. Hein, c'est une œuvre artistique, ça, c'est évident. Vous n'avez jamais vu du papier qui poussait tout seul. Je fais une plantation de papier, moi. Le papier sera corrompu avant qu'il pousse. Et ce sera le signe qu'il n'est pas vivant et qu'il est corruptible. Et que dans le papier, la matière est victorieuse de la forme. Puisqu'il se corrompt. Je découvre là la victoire de la matière sur la forme. Et dans toute œuvre d'art, au bout d'un certain temps, il y a victoire de la matière sur la forme. Je prends cet exemple qui est très très frappant et qui est très intéressant pour nous. La grotte de Nazareth, gardée jusqu'à nos jours, presque intacte, à cause de la pollution de l'air. L'air devient méchant. À cause de la pollution de l'air, la grotte de Nazareth s'effrite. On est obligé d'introduire des produits chimiques pour l'empêcher de se corrompre. L'art qui lutte contre l'art. La même chose pour le Panthéon. Jusqu'à nos jours, il restait intact. Depuis quelques années, il s'effrite. Et si on le laisse, la matière sera victorieuse sur la forme. Est-ce que ce n'est pas des petits signes de notre civilisation d'aujourd'hui ? La matière est victorieuse de la forme. C'est curieux, ça. Je réfléchis là-dessus, moi, distinction de la matière et de la forme, je la vois partout, pour la voir d'une façon analogique, et donc la saisir philosophiquement. C'est très puissant, la distinction de la matière et de la forme. C'est capital de voir ça. Et je vois que dans les objets d'art, au bout d'un certain temps, la matière est victorieuse. Ce n'est pas toujours la matière elle-même, c'est la matière aidée du milieu dans lequel elle est qui se corrompt plus vite que dans un milieu naturel. Le milieu naturel garde la matière, la pollution. C'est un milieu artificiel, la pollution. La pollution corrompt la matière qui jusque-là était gardée. Ça fait rêver, hein, de voir que la grotte de Nazareth s'effrite, de voir que le Panthéon s'effrite, de voir que aujourd'hui s'effrite. Le visage de l'homme s'effrite. Oui, puisqu'il y a le cancer qui vient. Le cancer de la peau. C'est le visage de l'homme qui s'effrite. Parce que le milieu devient nocif, alors que le milieu devrait garder. Le milieu normalement est maternel. Quand le milieu devient nocif, attention, le milieu nature maternelle devient nocif. Et c'est vrai, ça. Ce qui explique certaines maladies qu'on n'a jamais eues. comprends qu'à ce moment-là, certaines personnes, sans réfléchir jusque-là, se disent, il faut à tout prix arrêter. C'est l'origine de l'écologie. Gardons un milieu qui soit conservateur, maternel. Oui, tout cela nous conduit à réfléchir sur qu'est-ce que c'est que la philosophie de la nature. Ce sont ces problèmes actuels qui me posent un problème et qui me font réfléchir sur ce que c'est que la nature distingue de l'art. Et l'œuvre artistique distincte de la nature.
cours de philosophie de la nature par le Père Marie-Dominique Philippe à Saint-Jaudard le 29 octobre 1992.
Beaucoup de questions, il manque beaucoup d'admiration. Alors, quelle distinction faites-vous entre matière naturelle et matière synthétique, artificielle? Ah oui, entre la nature et ce qui est l'œuvre d'art. Le sel de mer et le sel fabriqué chimiquement. Le diamant naturel, le diamant synthétique. Monsieur Test de Valérie est au bord de la mer, il voit un caillou extraordinaire. Est-ce que c'est naturel? Est-ce que c'est fait par l'homme? Ce silex qu'on rencontre dans le désert, est-ce que c'est taillé par l'homme? Est-ce que... Alors, vous voyez, toujours, le philosophe, il regarde les choses les plus nettes pour ensuite revenir aux distinctions les plus complexes. La nature, la découverte de l'univers. Je prends d'abord des choses qui n'ont pas été touchées par l'homme. La côte sauvage. Bon breton, c'est pas du diamant chimique, non. Vous voyez, mon expérience première est à l'égard des réalités naturelles. Ensuite, je reviendrai sur les choses les plus, ces choses-là. Je ne peux les éclairer qu'en ayant découvert ce qu'est la nature. Je me souviens quand j'enseignais au Sochoir la distinction de la nature et du vivant. Alors il m'avait dit: j'espère que vous commencerez votre cours pour montrer si le virus est une réalité vivante ou pas vivante. Alors, je ne prends pas les situations extrêmes comme point de départ, puisque c'est des situations difficiles à préciser. Le philosophe est intelligent. Du moins, il essaie de l'être. Donc, il essaie d'abord de découvrir ce qu'est telle réalité à partir des choses les plus nettes, où l'expérience est nette, et non pas les situations limites. Parce que là, on peut discuter sans s'étendre. Et là, je reprends, et c'est dans ce sens-là, vous voyez, que les gens trop civilisés, on est dans une culture trop civilisée, donc dialectique, artificielle, mais quand un Nietzsche l'avait très bien compris, je regarde le désert, je regarde la mer, je regarde la montagne, et là, je suis en face de quelque chose de naturel, le lac de Sils Maria, en Suisse, un lac à 2000 mètres, il reflète les glaciers, c'est quelque chose. Oui, je pars des réalités les plus simples, du moins que ma part. commencer par ces problèmes complexes où je vois que les deux sont intimement liés. C'est ça du reste qui est terrible dans notre monde d'aujourd'hui. L'art est tellement poussé qu'on a l'impression qu'on arrive à fabriquer quelque chose qui est proprement naturel. Je commencerai pas par regarder des fleurs artificielles pour comprendre ce que c'est que la rose. Non, je regarderai les fleurs les plus sauvages. C'est pour ça qu'on aime de regarder les choses sauvages, comme disait Merleau-Ponty. Des choses qui n'ont pas été atteintes par le conventionnel. On aime ça, on fuit tout ce qui est banlieue. Parce que la banlieue, ni la ville, ni la campagne. Alors c'est désagréable. Mais la banlieue, c'est le sel chimique. Et ça, c'est très important au point de vue méthode philosophique. C'est que je veux saisir qu'est-ce que c'est que la nature. Bon, alors vous voyez, je réponds pas là. Parce que c'est des choses qui sont des situations limites. La science ne reconnaît-elle pas toujours le primat de la nature? La science reconnaît-elle toujours que l'homme est plus que la science? La question que je vous posais, que les maoïstes posaient au début de ce congrès à Helsinki à propos de la pollution, la science est-elle pour l'homme? L'homme est-il pour la science? Se poser la question tout le temps. La philosophie est-elle pour l'homme ou l'homme est-il pour la philosophie? L'idéologie est-elle pour l'homme ou l'homme pour l'idéologie? Des questions capitales et simples. Nous avons tous répondu, nous, mais pas autour de nous. Le positivisme régnant fait que l'homme est pour la science. Parce que la science devient une idole. Et l'homme adore l'idole. Dieu est-il pour moi ou moi je suis pour Dieu? Hein? Donc il faut comprendre cela. La science ne reconnaît-elle pas toujours le primat de la nature? Elle cherche bien à reproduire les phénomènes naturels pour les remplacer. Et au bout d'un certain temps, dire c'est bien plus important. Je me souviens la réaction de quelqu'un, d'un garçon que je connaissais bien, qui était parti en Amérique pour être banquier, parce que c'était banquier de père en fils, en Suisse. On comprend, il y a une tradition de banquier en attendant la banqueroute, n'est-ce pas? Il avait eu une réaction saine. Il avait voulu faire le calcul par lui-même, sans utiliser les outils qu'on lui avait donnés, qui permettaient de faire ses calculs beaucoup plus rapidement. C'était des outils. Et on l'avait attrapé parce qu'il avait fait le calcul sans se servir d'outils. Il avait dit, moi j'aime mieux ça, même si ça dure plus longtemps. J'aime mieux me rendre compte de ce que c'est. Alors il avait dit, mais vous pouvez vous tromper. Non, c'est sûr, je peux me tromper. L'outil ne trompe pas. Alors il dit, bon, je peux me servir de l'outil pour confirmer ce que j'ai trouvé. Oh, beaucoup plus simple. Parce que s'il y a une erreur, vous allez vous demander si c'est l'outil qui s'est trompé ou si c'est vous qui êtes trompé. Vous devez marcher aveuglement avec un... Alors ça l'avait scandalisé. L'homme est pour l'outil. Et non pas l'outil pour l'homme. Mais il y a cette inversion constante, c'est ça que j'appelle, et ce qu'on appelle l'idéologie rationaliste, positiviste. C'est que de fait, d'un certain temps, ce que l'homme fait remplace la nature. Alors là, c'est une réaction saine que vous avez là. Je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord avec vous que la science reconnaît le primat de la nature. Oui, jusqu'à un certain point, elle le reconnaît. C'est pas la science qui le reconnaît. C'est l'homme qui utilise la science. C'est l'homme. Mais quand l'homme ne reconnaît plus, quand l'homme disparaît devant la science, c'est la science qui devient un dieu. Et c'est ça le positivisme. Vous voyez ? Elle commence à considérer la notion de cycle complet de la matière pour éviter la pollution. Le cycle complet de la matière pour éviter la pollution, c'est qu'on essaie de faire ça, mais on n'y arrivera pas. Une fois qu'on a mis le petit doigt dans l'engrenage, on ne pouvait pas revenir à une nature pure une fois que vous avez commencé à la transformer. Vous ne la trouverez plus. Le primat de la nature, c'est justement que la nature comme telle, nature sauvage, je sais pas, est première. Et au fond, c'est ça la philosophie de la nature. C'est reconnaître ce primat premier de la nature par rapport à la science. Y a-t-il une distinction entre forme et détermination ? Vous voyez, au fond, cette question-là revient à comprendre que la nature humaine existe indépendamment de l'art, existe indépendamment de la science. L'homme a existé avant la science. Et l'homme existe au-delà de la science. Et que la science n'arrivera jamais à produire un homme. Mais elle peut arriver à faire comme si elle remplaçait tout. Il paraît que l'autre jour, c'est quelqu'un qui m'a dit ça. On parlait de l'homme et on parlait de la possibilité de fabriquer un homme. Alors on arrive à faire des prothèses remarquables. Et alors, on avait posé l'hypothèse, si au bout d'un certain temps, il n'y a plus des prothèses, on aura fabriqué un homme. Et cet homme aura l'immense avantage d'être uniquement un homme prothèse. Vous voyez le sophisme, j'espère. La prothèse est relative à quelque chose antérieur. Voilà, on voit ça pour les dents. Hein, parce que le dentiste, surtout avec notre petit dentiste de Neulise, qui est astucieux et qui est intelligent et qui sait ce que c'est. Prothèse, 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 prothèse. Au bout d'un certain temps, il n'y a plus de support. Là, vous dites, hein, il faut changer complètement tout, mettre un dentier sur une mâchoire naturelle. Et si la mâchoire s'use, mais heureusement que l'homme mourra avant. Autrement, de mémoire d'homme, il disparaît. Je dis, ben, j'ai fait mon métier, maintenant il meurt, c'est normal. Alors on recommence avec un jeune, et ainsi de suite. Vous voyez, c'est très curieux d'arriver à supprimer le jugement d'existence qui porte sur la nature et qui reconnaît que l'art présuppose la nature. L'art ne remplace pas la nature. La science ne remplace pas la philosophie de la nature, elle la présuppose. Mais on a l'impression, alors on raisonne dans l'ordre des possibles, qu'au bout d'un certain temps, on pourra faire que la prothèse tienne par elle-même. Et qu'elle ne soit plus prothèse, voilà, qu'elle soit nature. L'art est toujours quelque chose de second qui présuppose la nature. Et quand la nature est tellement usée, l'art lui-même ne tiendra pas. Il ne va pas tenir. Mais on en arrive aujourd'hui à faire croire qu'on pourra à un nouveau monde et une nouvelle terre. Ça, le nouveau monde et la nouvelle terre, c'est la résurrection finale, c'est pas l'homme. Et on vit dans une espèce d'illusion qu'on arrivera à remplacer la nature et fabriquer un homme qui lui ne mourra plus. La prothèse ne meurt pas. Elle s'use un peu. Il faut bien reconnaître qu'elle s'use. Qu'elle n'est pas. Mais elle est de qualité moins corruptible que la chair humaine. La preuve, c'est que quand vous avez des dents artificielles, vous n'avez plus le même goût. Ça ne vit pas de la même façon. Est-ce que ça vit encore? Non. Ça ne vit plus. C'est plus corruptible, ça ne vit plus. Faire un monde qui ne meurt plus, mais qui soit insensible. Est-ce que c'est un avantage? C'est un avantage. C'est plus corruptible, mais ce n'est plus vivant. Vous n'arrivez pas à faire des dents vivantes qui remplacent vos dents. Vous introduisez dans le corps humain des quantités de choses. Tant qu'il y a un support suffisant, ça va. Mais le jour où le support sera plus suffisant, il n'y aura plus de vie. Alors, il y a une distinction entre forme et détermination. Il faut comprendre, comme toujours, pourquoi y a-t-il deux mots ? ne voit que l'aspect matériel. Il y a la forme. Il y a une philosophie de la nature. S'il y a une philosophie de la nature, il y a donc la découverte de principes. Des principes propres de la nature. Et ces principes propres de la nature ne sont pas le conditionnement. Qui dit conditionnement dit non-forme, non-principe. Et simplement disposition qui conditionne. Oui. Donc, je vois très bien la réaction de dire conditionnement, c'est pas seulement conditionnement, c'est bien évident. C'est plus que ça. Mais c'est plus que fondement. C'est principe propre. On verra ça progressivement. Alors, ici, qu'est-ce que le philosophe dit si on le critique en disant « Est-ce que l'utilisation de l'analogie forme et matière au niveau de l'art est juste par rapport à la philosophie de la nature ?» Oui, ça c'est la grande question. Hein. Et c'est très bien de revenir là-dessus. J'ai dit la dernière fois, et je reviens là-dessus, parce que c'est un problème critique, ça. Mais c'est un problème critique important. J'ai dit la distinction forme, matière. Cette distinction, elle est premièrement à propos de l'œuvre d'art. L'œuvre d'art a ceci d'avantageux, c'est qu'elle est beaucoup plus proche de moi, puisque c'est le produit de l'homme. Comme dit Dante, elle est petite fille de Dieu. Alors les petites filles sont toujours beaucoup plus gentilles, on distingue beaucoup mieux. C'est bon. Tandis que la nature humaine, elle est fille de Dieu, image de Dieu. Donc l'œuvre d'art, toute œuvre d'art, est proche de l'homme. C'est ce que dit Nietzsche quand il dit « Quand je suis dans une ville, je dis l'homme. Quand je suis au désert, je dis Dieu. » La manière nietzschéenne de traduire l'art est petite fille de Dieu. Parce que la manière nietzschéenne de dire ça, c'est de dire l'homme prend la place de Dieu. Donc, dans la ville, plutôt que de dire petite fille de Dieu, Jérusalem, petite fille de Dieu, je dis l'homme. Et quand je suis au désert, je dis Dieu. Donc, l'œuvre d'art est plus proche de l'homme. C'est ce qu'il y a de plus proche, puisque l'œuvre d'art vient de l'homme. Donc, toute œuvre artistique, même le sel fait physiquement, sorti de telle usine, on ne dit pas sorti de la pensée de Dieu, sorti de telle usine, fabriqué en Suisse, fabriqué en Angleterre, fabriqué en France. Vous voyez, la référence est politique. Donc elle est humaine. C'est une communauté humaine qui a fait ça. C'est. Quand vous voyez, ça c'est très curieux. On n'est pas tellement habitué qu'on ne réfléchit pas. Mais c'est quand même intéressant. On met la référence là. Toute œuvre d'art réfère à l'homme. Donc, elle est proche de l'homme, l'œuvre d'art. Et c'est pour ça que j'analyse une œuvre d'art. Je veux savoir qu'est-ce que c'est. Qu'est-ce que c'est que cette œuvre d'art? Qu'est-ce que c'est que cette statue? Qu'est-ce que c'est que cette statue? Ah, c'est une statue religieuse. Pourquoi dites-vous que c'est une statue religieuse? Parce qu'on représente la Vierge Marie et l'enfant Jésus. Ou est-ce qu'il y a quelque chose de plus? Cette statue, elle est faite en quoi? Ah, vous voyez, alors, je retrouve les interrogations. D'où ça vient, les interrogations? C'est une œuvre d'homme. L'enfant interroge. Est-ce que c'est naturel d'interroger? Ou est-ce que c'est artificiel? Heureusement que l'enfant interroge avant d'aller à l'école. livre, c'est l'éveil de l'intelligence. Mon intelligence étant liée au corps et aux sensations, mon intelligence interroge. Pourquoi ? Parce qu'elle veut savoir quelque chose de plus que ce qu'elle voit immédiatement. Et c'est pour ça que je distinguerai tout de suite le visible et l'invisible. Le livre posthume de Merleau-Ponty, le visible et l'invisible. Et pour lui, c'est ça qu'on retrouve dans toute philosophie, j'allais dire dans tout homme. Le visible et l'invisible. L'extérieur et l'intérieur. Je vois l'extérieur, j'interroge pour savoir ce qu'il y a dedans. Pour ce fait, une boîte, merveilleusement, cadeau, de fait. Une boîte, oh, belle, merveilleuse. Et puis aujourd'hui, on met des papiers qui sont extraordinaires. On se demande si on n'en voit pas à cause du papier. Il est tellement plus beau que l'intérieur, quelquefois. Puis vous regardez ce qu'il y a dedans. Puis on vous a envoyé une boîte, il n'y a rien. Vous êtes attrapé, hein. Vous croyez trouver quelque chose dedans. Et plus le papier à l'extérieur est beau, plus vous dites « Oh, ça doit être rare. » Et il n'y a rien. Vous êtes déçu. Mais déception. Parce qu'on a interrogé. Il y a quelque chose dedans. Mais le gosse fait ça. Regardez ça avec un gosse. Ça lui inquiète. Une boîte, il va vite dire « Arrache tout. » Tandis que la grand-mère, on enlève les choses, ça pourra servir. Le gosse se précipite, et il regarde la chose directement. Qu'est-ce que c'est que dénouer ? C'est analyser. On analyse, on enlève la merveille, on enlève le papier, on regarde attention. Si les collés ont l'endroit où les collets, on décolle soigneusement, ne déchire rien du tout, on analyse. Oui, c'est naturel. Et pourquoi on analyse? Parce qu'on interroge. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Qu'est-ce qu'il y a dedans? On passe du visible à l'invisible. Mais on fait ça machinalement. Mais c'est quand même important. Une œuvre d'art, vous interrogez l'œuvre d'art. Qu'est-ce qu'elle est, cette œuvre d'art? On voit l'aspect de la forme, sa détermination. C'est une statue. C'est une statue de la Vierge. C'est une statue de l'enfant Jésus. C'est une statue de tel héros, libérateur, victorieux. C'est une statue de la liberté. Est-ce qu'on fait des statues de la liberté? Et c'est comme ça qu'on a l'expérience de la liberté. Grâce à la statue de la liberté, parce que la liberté en soi, elle n'est pas statue. Mais l'art fait que la liberté devient sensible. Alors ça devient très grave qu'à partir de l'art, on croit que l'abstrait est immédiat. Vous voyez, c'est ce que Platon saisissait, que l'art est menteur. Et donc, dans la République, l'art est menteur, il vous fait croire que l'abstrait est sensible. Et que tous les mythes qu'on raconte, on croit que c'est vrai, alors que c'est des mythes. On croit que le symbole est quelque chose d'immédiat, mais non, c'est un symbole. C'est très curieux, ça, et c'est très intéressant. De voir que l'interrogation découvre les déterminations, la forme. Mais la forme, elle est dans une matière. Et alors, si cette distinction forme et matière se fait d'une façon extrêmement simple, c'est la première analyse selon l'ordre génétique. Il n'y a pas d'autre analyse avant. Réfléchissez bien, il n'y en a pas d'autre. Matière et forme, visible, invisible. La matière est cachée. Alors ce qui est curieux, hein, le visible, c'est la forme. Ça peut être aussi la matière, d'une certaine manière, mais c'est la forme, la figura. La première forme, c'est la figura. C'est le paysage, c'est la figure, c'est la statue. Exprimer. Et puis la matière. première distinction à partir de mon interrogation et donc à partir de l'analyse. Pour qu'il y ait analyse, il faut interrogation. Et voyez, le gosse qui reçoit le cadeau, il est pressé de voir tout de suite ce qu'il y a dedans. Il ne veut pas analyser. C'est la grand-mère qui analyse. Il ne veut pas analyser. Il se précipite pour voir tout de suite. Peu importe, on a tout abîmé, on veut voir dedans. C'est très significatif. L'amour n'analyse pas. C'est l'intelligence qui analyse. L'amour ne veut pas analyser. Elle veut tout de suite voir ce qui est dedans. L'intelligence analyse. On prend du recul pour analyser. Patience. N'abîme pas tout. Oui. Alors, on analyse. C'est le premier moment capital. Comment pouvons-nous transposer cette distinction première? Parce que après cette distinction, on en fera une autre. D'où vient cette œuvre d'art? D'où vient cette œuvre d'art? Telle fabrique. Elle est faite dans tel endroit. Elle provient de tel artiste. Si c'est une œuvre de série, c'est la fabrique. Si c'est une œuvre unique, bien cachée, tel artiste. Donc, on cherche la cause efficiente. D'où ça vient? D'où ça vient? Et puis, on se pose la question, mais pourquoi? On vous envoie quelque chose d'extraordinaire. Vous ne l'avez jamais utilisé, mais pourquoi ça? À quoi ça sert? C'est le dernier tire-bouchon qu'on a inventé. On ne l'a pas encore vu. À quoi ça sert? Ah, on va vous montrer. L'usage. L'usage, c'est la finalité. À partir de l'œuvre d'art, vous découvrez toutes les interrogations les plus simples. Ces interrogations sont naturelles, c'est pas artificiel, c'est naturel. On veut savoir, l'appétit de connaître est naturel. C'est mon appétit d'intelligence. Donc voyez, ce qui est intéressant, c'est de voir que ces interrogations, c'est la vie de mon intelligence. Et je les vois tout de suite. Et je peux me poser la question, mais si c'est une œuvre de série, ah, une œuvre de série, il y a un modèle. Il y a un modèle. Parce que je vois que mon petit frère, il a reçu la même chose. Mais moins bien fait, il y a une petite erreur. Ah, dites-moi, le modèle, ouais, c'est bien, il passe avant. Parce que c'est plus ancien, maintenant c'est fatigué le modèle. Alors, on cherche le modèle, cause exemplaire. Vous avez naturellement cette découverte des diverses causes. Ceci, je le prends par rapport à l'œuvre d'art. La philosophie commence par analyser l'œuvre d'art. Vous voyez, et c'est ça qui est terrible en scolastique, c'est qu'on n'a plus parlé du tout de la philosophie de l'art. Donc on a perdu le point de départ. En perdant le point de départ, on perd le jugement d'existence. Et on a transposé les quatre causes. Ben oui, dans tous les manuels thomistes, on dit les quatre causes, ils vous tombent du ciel. Mais pourquoi les quatre causes? Les cinq causes d'autres. D'où ça vient? L'expérience, l'interrogation, l'admiration. Et vous pouvez alors, à partir de là, chercher d'où viennent ces interrogations de votre expérience. Parce que l'expérience est partielle par rapport à une réalité qui, elle, est complexe et une. Et c'est cette unité de cette réalité dans sa complexité qui vous fait interroger. Et vous interrogez. Et voyez que l'expérience fait que j'interroge diversement. Si j'ai l'aspect de la vision plus développée, ou le toucher plus développé, ou l'odorat plus développé, les interrogations sont différentes. Il faut voir que les interrogations proviennent de mes expériences, et mes expériences impliquent les cinq sens. Alors, comment je passe du pratique au spéculatif? L'œuvre d'art, je vois que l'œuvre d'art présuppose une matière naturelle. Le sel chimique présuppose le sel que j'ai pris de l'océan. Est-ce qu'on aurait inventé le sel chimique si je n'avais pas eu le sel de l'océan? Un sel naturel. La plupart du temps, hein, c'est en regardant les oiseaux voler qu'on a construit l'avion. C'est bien évident. Le vol de l'aigle, c'est pas... Une fois qu'on a commencé, on va aller toujours plus vite. Le point de départ de la connaissance de l'homme, c'est la nature. Au-delà de là, l'art n'est pas premier. Il est premier du côté de la connaissance, de l'analyse, mais pas du côté de l'expérience. La première expérience qu'on a eue, enfant, c'est de voir. C'est de goûter. C'est de toucher. C'est pas tout de suite réaliser quelque chose d'armement, pas du tout. C'est quand on a commencé à jouer. Je crois que la première expérience de l'art, c'est le jeu. Mais on a d'abord eu des sensations. Et ces sensations, c'est la connaissance. Donc, en interrogeant, il y a une structure intellectuelle qui se forme en moi. Et c'est cette structure intellectuelle qui se forme en moi à partir de la première analyse qui va commander les autres analyses. Puisque l'œuvre d'art présuppose une matière, je me pose la question, quelle est cette matière? Qu'est-ce que c'est que cette matière? Et je vois que cette matière implique des déterminations, des formes. Qui ne sont plus une forme d'art, qui est une forme naturelle. Ce n'est pas l'homme qui l'a faite. Et donc je distingue en premier lieu la forme artificielle de l'œuvre d'art et la forme antérieure à l'œuvre d'art. Par le point de vue de la détermination. Et je détermine une matière. Alors comment je passe de cette connaissance artificielle de l'œuvre d'art à une connaissance de la nature? C'est l'appétit de connaître. Il y a quelque chose en moi qui est fondamental, c'est mon désir de connaître. Et comme l'analyse de l'œuvre artistique m'a donné des plis, une certaine structure, c'est ça la structure, structure naturelle. J'interroge. Comme j'ai interrogé l'œuvre d'art, j'interroge l'expérience que j'ai de la réalité physique. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que cette réalité? Qu'est-ce qu'elle est dans sa détermination? Et je retrouve alors la découverte de la détermination de la forme naturelle. Que je compare avec la forme artificielle. Et je vois que la forme naturelle, ce n'est pas l'homme qui l'a faite. Donc, sa causalité formelle ne vient pas de l'extérieur. Elle vient de l'intérieur. Elle est immanente. L'eau. C'est l'eau. L'eau naturelle. veut dire, oui, ça descend du ciel, oui, du nuage, oui, du nuage, et tout, comment il se fait former, oui, il vient de la terre, donc il y a un cursus entre les deux, et puis c'est la nature, le feu. Mais je découvre ce qu'il y a de premier et de fondamental, mais l'intérêt, c'est de voir comment je suis passé de l'un à l'autre, de l'analyse d'une œuvre d'art, connaissance donc pratique, à l'analyse spéculative d'une réalité que je n'ai pas faite, que l'homme n'a pas fait, qui est antérieure à l'homme. Alors évidemment, ce serait très intéressant de voir à propos de quoi on a fait cette première distinction. Je crois personnellement qu'on a d'abord connu la nature avant de la transformer. Et donc, la connaissance de la nature est première. On l'a transformée avec l'art. Et une fois qu'il y a eu l'œuvre d'art, on a analysé. Et l'analyse qu'on a faite de l'œuvre d'art, on l'a transposée analogiquement à la réalité naturelle. Donc vous voyez, si j'essaie de comprendre le cycle de connaissance, c'est d'abord l'expérience de la réalité qui est autour de moi. Tandis que l'analyse porte en premier lieu sur l'œuvre artistique. Et cette analyse, je la transpose. Qu'est-ce que c'est que cette analyse? C'est une structure de ma connaissance. C'est mon intelligence qui interroge. Et mon intelligence interroge aussi bien des œuvres d'art que une réalité naturelle. Mais elle verra progressivement que les réponses sont différentes. Et elle va progressivement faire que l'ordre de son interrogation n'est pas la même. Et ça, c'est justement parce qu'on veut arriver à une connaissance plus parfaite. C'est par là que je peux comprendre qu'on peut transposer une distinction faite sur l'œuvre d'art à la nature. Parce qu'il y a un lien entre la nature et l'œuvre d'art. Et parce que c'est la même intelligence qui a analysé l'œuvre d'art et qui veut analyser la nature. Intelligence qui a analysé l'œuvre d'art et qui veut analyser la...